Stéphane Arfi, merci. Voilà, nous allons parler ensemble de votre premier roman, La vie magnifique de Franck Dragon, que vous avez et qui a été édité chez Grasset. Alors, très honnêtement, la première question que je vais vous poser, en tout cas merci d'être là au rendez-vous, vous êtes en Bretagne, mais c'est comme si vous étiez dans le studio. J'irai droit au but parce que ce qui m'a époustouflé dans ce livre, ce premier roman, c'est l'écriture. Alors là, j'avoue que, en plus, je suis très sensible à ça. D'où vous est venue cette inspiration pour faire parler ce petit Franck, qui est muet, hein, évidemment, et qui pense, qui observe et qui s'exprime par votre voix dans un langage très audacieux, parfois un peu déroutant, hein, au démarrage, j'ai eu un peu de mal, mais après, c'est fascinant. Donc voilà, comment avez-vous fait pour retrouver ce vocabulaire et puis ce rythme ?
Pour dire la vérité, je ne sais pas vraiment, à vrai dire. J'ai certainement voulu au départ écrire entre guillemets bien, c'est-à-dire avoir du style qui ressemble à ce qu'on lit quand on imagine qu'on va lire un romancier. Et ça me correspondait pas du tout. J'ai essayé de faire des jolies phrases qui ne me correspondaient pas et qui disaient pas ce que je voulais dire. Et donc j'ai commencé à écrire entre guillemets mal pour moi, c'est-à-dire un peu comme ça venait en fait. Et peu à peu, je me suis rendu compte que j'écrivais pas du tout comme je l'imaginais. Donc ce style s'est imposé à moi en fait. La façon d'écrire s'est imposée à moi. Donc c'est ma façon d'écrire mal, si vous voulez. C'est assez étrange de le dire, mais c'est d'ailleurs un conseil que je donnerais aux écrivains qui, comme moi, font leur premier roman. C'est d'écrire comment ça vient, parce que le vrai style, c'est le style que vous avez en vous, c'est pas le style de celui que vous admirez ou que vous détestez. Voilà, donc ça s'est imposé à moi, et après le fait que ce soit un petit garçon, j'y ai mis toute la part d'enfance qu'on garde tous, la part de poésie qu'on a de l'enfance, et qui est chez moi très, très importante. Voilà, je considère qu'on n'est pas forcément tous des adultes, on est surtout des enfants qui avons vieilli, en fait, voilà, quand on est adulte. Donc voilà, pour répondre à votre question, le style est venu un peu malgré moi, en fait.
Oui, oui. Alors, oui, je comprends très bien ça, hein. On sait souvent, les écrivains disent que l'inspiration leur vient. Bon, parce que l'histoire que vous racontez, c'est une histoire évidemment qu'on connaît et qui a été racontée. En revanche, je répète, ce qui fait l'originalité de votre livre, c'est la façon dont vous faites parler vos personnages. Alors quand vous dites ça vous est venu naturellement, comme si vous étiez un enfant et cette part de rêve que l'on a toujours, ça je vous l'accorde volontiers. Mais, quand même, à mon avis, il n'y a pas trois styles, mais vous arrivez quand même à modifier légèrement votre écriture. Notamment, moi j'ai été frappé quand le père, qui est juif, donc revient d'après les camps de concentration et explique ce qu'il a dû faire sur les camps. Là, il y a 2-3 pages où il a un récit. Là, vous avez eu une écriture très haletante, il n'y a pas de ponctuation. Quand on lit à voix haute ce passage, on est soi-même submergé par une sorte d'émotion et d'angoisse, enfin terrible, quoi, non ? Donc, comment avez-vous fait là ? Vous étiez vraiment. Vous avez entendu tous ces récits ? Vous les avez pas inventés, on sait maintenant ce qui s'est passé. Mais comment avez-vous fait ?
En fait, on n'invente rien. Donc, j'ai eu un choc littéraire il y a quelques années en lisant quelqu'un qui s'appelle Zalmen Gradovsky, qui a fait partie de ce qu'on appelle les Sonderkommando à Birkenau, Auschwitz. Ce sont des juifs qui étaient chargés de s'occuper littéralement des fours dans lesquels on jetait les cadavres. Donc, c'est pas très. Voilà, ça a été le travail le plus ignoble qu'on puisse imaginer.
C'est sûr.
Qui a été demandé évidemment de force par les nazis, et que faisaient donc entre 500 et 800 juifs sélectionnés. C'était souvent des jeunes hommes, donc 18-20 ans, qui voulaient vivre et qui ne se suicidaient pas forcément tous parce qu'ils voulaient juste vivre. Et donc ils ont fait ce travail infernal pendant des jours et des jours, parfois pendant une année ou deux avant d'être tués. Ils ont quasiment tous été tués. Et vous avez quelques survivants, il y a eu quelques survivants, mais surtout 2-3 personnes qui ont écrit tous les soirs dans ces Sonderkommando, avec un bout de crayon, un bout de papier qu'on leur donnait et qui écrivait en cachette. Et parmi eux, il y a quelqu'un qui s'appelle Zalmen Gradovsky, qui était une sorte de Stefan Zweig, qui n'aurait pas pu être Stefan Zweig, qui n'a pas eu le temps de l'être, qui écrivait extrêmement bien et qui a voulu témoigner. Et très bizarrement, il a témoigné de manière assez lyrique et poétique. Mais ces gens-là, puisqu'ils allaient mourir, ils n'avaient pas le temps de mettre de la ponctuation, de mettre, vous savez, le style littéraire, en fait. Mmh. Voilà. Et donc, on a retrouvé tous leurs manuscrits après la guerre, cachés sous la cendre, dans des bouteilles, dans des gourdes, etc. Et on a découvert ces textes qui sont écrits comme ça, comme je les ai écrits, c'est-à-dire sans texte, sans
ponctuation.
Voilà, les mots à la suite des autres, et ça vous donne ça donne quelque chose d'un discours un peu halluciné.
Ah oui.
Et que j'ai en fait qui m'a percuté quand je l'ai lu, et j'ai voulu en fait rendre ça.
C'est ça, c'est-à-dire que vous travaillez un peu avec l'émotion, quoi. Vous trempez votre plume dans l'émotion, hein. C'est ça finalement. Ouais.
Bah ouais, parce qu'en fait, si vous voulez, le problème avec la question de la Shoah, c'est que il y a une sorte, en ce moment, il y a une sorte de pas de volonté, mais de ras-le-bol des gens en disant on a trop mémorisé la Shoah, on en a trop parlé. Alors, il s'agit que de la France, que je vous rassure qu'à part la France, on en parle très peu ailleurs. Mais c'est vrai qu'en France, il y avait beaucoup de commémorations, et je me suis dit, ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y aura plus de témoignages, en fait. Parce que d'ailleurs, les témoins sont en train de mourir les uns après les autres, ils disparaissent. Comment on va retranscrire ça quand on l'a pas vécu? Est-ce qu'on va arrêter d'en parler, puisqu'on en parle trop, soi-disant? Et donc, je ne savais pas comment le prendre. Et j'avais envie de raconter la même histoire. Vous disiez très justement que ça a été dit, raconté très souvent, l'histoire d'un enfant juif qui survit à la guerre. Et donc, je me suis dit, j'ai ressenti qu'il fallait passer par l'émotion.
Oui, oui, là, c'est authentique. Hein, on les entend.
Donc, je ne parle pas d'Auschwitz, je ne parle pas du fait qu'il soit juif. Je ne mets pas d'éléments historiques, si vous voulez, dans le livre. C'est vraiment un roman... poétique, au sens où on passe par l'émotion pour faire ressentir ce qu'on a pu vivre dans cette époque-là, qui est une époque de grande terreur, de grande douleur, et qui nous donne aussi des leçons sur des petites leçons de morale sur ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour aller mieux tous et combattre nos peurs, en fait.
Oui, parce qu'en même temps, je reviens aux gamins, parce que c'est vrai que quand on est enfant, on voit des événements même terribles, douloureux, mais on les voit avec le regard de l'enfance. Il y a pas... Et notamment, il y a une séquence que j'aimerais bien, je lirai certainement, on fera quelques pauses dans l'interview finale, et j'insérerai quelques extraits de votre livre, notamment quand le petit Franck court, aidé par Samuel, avec les boches qui leur tirent dans les pattes, etc., etc. Là aussi, c'est très intéressant parce que il dit mon Samuel courait, il est tombé, pas moi. Voilà. Donc c'est vraiment bien vu parce que c'est vraiment comme un gamin qui est comme dans une course, quoi. Évidemment, c'est terrorisant. Il sent qu'il y a du danger, mais il le voit pas vraiment, quoi. Ça devient quelque chose comme un jeu. Hein. Donc c'est un peu comme ça que les enfants voient les choses, non?
Ouais. Là, je ne sais pas, je l'ai pas pensé comme un jeu, mais il a ce regard décalé en fait sur la réalité, comme tous les enfants. Qui veulent parfois ne pas comprendre ou mettre à distance des choses dures, et donc qui voient aussi dans la réalité cette part insensée qu'on a dans la vie de tous les jours, de se dire est-ce que tout ça est vrai, est-ce qu'on peut pas jouer avec ça, mais il ramène finalement son évasion, enfin sa fuite à une course.
Oui, c'est ça.
Une course d'enfant.
Ouais, ouais. Mais c'est très bien écrit.
Vous savez, j'ai souvent rencontré dans les hôpitaux des clowns qui viennent voir les enfants qui sont très malades et qui parfois disparaissent. Et très souvent, ce que les enfants disent par rapport à la mort, donc par rapport à quelque chose d'extrêmement extrêmement compliqué à gérer, ils veulent pas mourir très souvent pour pas faire de peine à leurs parents.
Ah oui.
Et donc ce regard décalé qu'a un enfant sur la mort, on va dire j'ai pas envie de mourir parce que je voudrais vivre, souvent c'est par rapport aux parents. Donc ce petit décalage qu'ont les enfants, qui leur permet de tenir d'ailleurs, j'ai essayé de le remettre dans le livre pour qu'on comprenne que qu'on peut échapper à la mort ou aux choses compliquées en légèrement décalant un peu la réalité ou en décalant sa perception, en fait.
Oui, tout à fait. Et alors, puisque je parlais d'écriture, il y a aussi un troisième volet, si je puis dire, quand vous avez partagé votre livre en chapitres, et par année, hein, dans l'espace et aussi dans le temps. Et à un moment, j'ai vu Meudon. Alors bon, moi, il se trouve que j'ai fait une thèse sur Céline, donc Meudon, ce m'as-tu dit, Meudon. Alors je me suis dit, est-ce que ce petit Franck Dragon aurait, par hasard, rencontré Céline? Ben oui, le docteur Destouches. Alors, là aussi, vous avez réussi, le docteur Destouches, donc le Swine d'ailleurs, et donc vous avez retrouvé exactement la façon dont Céline parle, écrit, donc ça c'est formidable aussi.
Pour faire ça j'ai dû lire quasiment tout ce qu'il a écrit, hormis les pamphlets, parce que je les connaissais, puis j'avais pas vraiment envie de relire ses objections. Oui. Et j'ai relu ses deux plus grands romans, qui sont Mort à crédit et Voyage de la nuit. Et puis après, j'ai regardé beaucoup d'interviews de Céline pour voir le personnage, pour retranscrire la manière dont il était, et pour faire en sorte que ce petit garçon qui est à Meudon à ce moment-là, le hasard fait qu'il est en banlieue, soit reçu par, par le docteur Destouches, donc Céline, qui effectivement le faisait, recevait comme ça ponctuellement des gens sans les faire payer. Bon, il avait une image de médecin des pauvres, mais c'était pas une image, il le faisait vraiment. Et donc je me suis dit, est-ce que le hasard pourrait que cet enfant qui sort de la guerre et qui a échappé aux rafles et finalement la haine qui a été en partie instruite par Céline, pourrait l'encontrer. Donc je les ai fait se rencontrer. Et ça donne cette scène où vous avez le médecin qui fait son
métier,
fait son boulot de médecin, voilà, qui fait son métier,
Qui
délire, voilà, qui délire comme faisait souvent Céline. D'ailleurs, il parlait en sous forme de monologue non-stop, et donc il lui raconte sa vie.
D'accord. Mais alors, justement, je trouvais que j'ai senti qu'il y avait quand même un peu de respect vis-à-vis de Céline. J'entends l'auteur, hein, évidemment. Ne parlons pas de sa vie qui est très discutable, enfin, de la façon dont il a procédé. Mais il me semble que par rapport à l'écrivain, vous avez quand même une certaine admiration. Je me trompe ?
Ouais. C'est pas une certaine admiration. C'est que, on peut difficilement ne pas être admiratif quand on lit Voyage au bout de la nuit. C'est un grand roman.
Je suis d'accord.
Il y a un souffle fabuleux qu'on retrouvera, à mon avis, jamais dans la littérature française. Après, le fait que ce soit un salaud, je le sais aussi. Je le sais aussi. Mais les deux vont ensemble. Et c'est pour ça que dans le texte, dans les quelques pages que je lui consacre, on voit bien qu'il est ignoble, mais qui fait son travail, voilà, par rapport à un enfant. Donc c'est un, voilà, c'est un.
Oui, mais c'est pour ça que c'est bien.
C'est une énigme comme la France.
Tout à fait.
La France a pu en faire naître un salaud avec un talent inouï.
Oui. Non, c'est bien vu, et donc c'est intéressant, parce que c'est vrai que c'est quelquefois un peu à contre-courant aujourd'hui, donc ça montre une belle ouverture d'esprit, quoi. Donc voilà.
Oui, alors... mais ça, par contre, je pense que c'est ce que Shakespeare, dans ses textes, alors je me référence à Shakespeare parce que j'adore Shakespeare, mais on voit bien que Shakespeare, quand il écrit, il écrit contre lui. C'est-à-dire que c'était tellement magnifique ce qu'il faisait dans ses textes, qu'il arrivait à prendre la position du méchant, du gentil, etc. Mais quand il prenait la position du méchant, il ne faisait pas à moitié. Il faisait vraiment parler, et c'est la grande force de Shakespeare. Et donc j'ai dû, moi, pour parler de Céline, penser contre moi, aller contre moi, et faire parler, un méchant, tel qu'il parlait. Donc c'est aussi une manière de respecter ce qu'il a été.
Exactement.
En tant qu'écrivain, et aussi de lui rendre sa part de personnage ignoble qu'il a été.
Tout à fait.
Et qui doit rester, parce qu'il ne faut pas non plus oublier
bien sûr
ce qu'il a fait.
D'autant qu'aujourd'hui on ressort encore des choses vraies ou fausses, je n'en sais rien, mais enfin qui montrent bien que le personnage a été quand même assez abject. Mais je suis assez d'accord avec vous, il y a une écriture. Donc c'est pour ça, même la totalité de votre livre d'ailleurs montre quand même que cette façon de parler avec ses tripes, que ce soit le môme, que ce soit le père qui revient des camps, ou même Louis Ferdinand dans Céline, il y a quelque chose en vous d'une certaine violence et une force, quoi. Donc c'est bien comme ça que vous l'entendez.
Oui, tout à fait. Je pense, mais je suis sincère, c'est mon premier roman, donc j'espère qu'il y en aura d'autres, mais je l'ai fait avec une sincérité que j'espère conserver pour la suite. Mais pour moi, on ne peut pas écrire autrement. C'est-à-dire, si vous considérez que vous avez un roman à faire, il faut l'écrire avec ses tripes, il faut l'écrire tel qu'on est, il ne faut pas se regarder écrire, il faut surtout pas se mentir, sinon si vous passez à côté. Et je pense qu'au final, quand vous regardez ce que vous avez fait après, il faut plutôt être content d'avoir pris cette position-là, même si ça donne quelque chose de littéraire, donc pas forcément toujours très accessible.
Sans compromis.
Et, voilà, mais il ne faut pas en faire, parce que si vous écrivez, c'est pour ça. Et d'ailleurs, Céline en parle beaucoup de ça. Il dit, si vous écrivez, ce n'est pas du tout pour plaisanter. On n'est pas là pour écrire des cartes postales et pour s'amuser. Donc, si vous écrivez, c'est la grande affaire. Allez-y, Stéphane Zweig le disait aussi. Allez-y, mais allez-y sans compromis, sinon ça n'a strictement aucun intérêt.
Tout à fait, tout à fait. Alors, sur la fin du film, pardon, excusez-moi, c'est parce que je suis plutôt branché cinéma, mais le livre, ça pourra peut-être d'ailleurs être un... Quoique c'est difficile, je pense qu'on ne pourra pas adapter au cinéma, parce que votre écriture est tellement... Elle est littéraire quand même, hein. Il y a une force comme ça qui... Enfin, je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Alors bon, pour en revenir à la fin du film, c'est vrai que tout d'un coup, ce personnage donc, va mourir deux fois, mais alors dans l'eau. Et en même temps, c'est un peu complexe. Il y a quelques petites histoires. Moi, je ne sais pas. Alors, c'est idiot ce que je vais vous dire. Je m'en excuse par avance. Mais il y a certains chapitres que j'aurais gommés. Je trouve que moi, j'aimais bien cette histoire de môme qui restait dans cette naïveté de môme. À la fin, ce côté quel est mon Dieu ? Est-ce que le Dieu nous aide ? Est-ce que. Voilà, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous avez pu terminer ce livre de cette façon-là. Qu'est-ce qui vous a motivé, là ?
J'ai juste déroulé l'histoire, j'avais pas personnellement de chapitre à enlever ou à laisser, c'était juste ça s'est imposé.
Ah oui.
Une réflexion sur Dieu à la fin du,
oui.
à la fin du bouquin, parce que toute sa vie, il est marqué par,
oui, le,
par
Dieu
le,
fâché,
le rapport à la religion.
Le Dieu fâché.
Le rapport,
ouais.
Ouais. Voilà, par rapport au Dieu en colère des, que lui imagine, Dieu, ce qu'il appelle le Dieu fâché. Il veut comprendre pourquoi Dieu laisse l'injuste gagner souvent contre le juste.
C'est sûr. Mais alors la mort serait, mais la mort serait une liberté.
Non. Et d'ailleurs, en fait, tout le livre, c'est une question de survie.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que il meurt pas. Donc, je
il imagine. J'ai... Il imagine sa
Pardon?
Mort. Il imagine sa mort quand même, non?
Ben, en fait, pendant la tempête sur un bateau, il tombe à l'eau.
Oui.
Et c'est un moment où il peut effectivement mourir. Il est sauvé par les marins.
Voilà, il est sauvé in extremis. Donc, ça veut dire qu'il est déjà dans la lumière de l'ailleurs, hein?
Ouais, il voit une partie de ce que peut être la mort.
Mm-hmm.
Et mais on lui dit, enfin ça. Un personnage lui dit dans l'eau, enfin, un peu fantomatique, lui dit ton heure n'est pas arrivée, il faut, voilà, tout n'est pas accompli, il faut vivre.
Mm-hmm.
Donc c'est un livre sur le. C'est un hymne à la vie, c'est un hymne à la. Mais la vie, elle tient à rien. Donc, à partir du moment où on sait que la vie ne tient à rien, comme ça lui arrive, lui, à travers toutes ses épreuves, il a envie de vivre, et la chance lui sourit jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment un livre sur le combat pour la vie, le sens de l'existence.
Le sens de l'existence, mais aussi de la croyance en Dieu. Hein, parce qu'à un moment, à plusieurs reprises, vous dites, il va être l'heure de croire en Dieu. Non, c'est l'heure de croire en Dieu, non?
Mais Dieu, dans mon esprit, je l'écris, vous avez vu, à la fin, je le mets un peu dans tous les sens, Dieu. Mais Dieu, ça peut être le destin, le hasard, la nature,
bien sûr.
Le cosmos, l'univers, la science. Enfin, toutes ces choses qui sont mystérieuses, donc... la science, quand on voit qu'on connaît à peu près 1% de l'univers, on a encore un peu de travail, mais c'est peut-être le mot Dieu, si vous voulez, c'est un mot valise, donc je veux pas.
D'accord. Et de la même façon, quand il est sur le bateau et tout ça, c'est ce bateau, si je me souviens bien, je l'ai lu pourtant il y a pas longtemps, il s'appelle La Liberté, non?
Donc ce
bateau qui vous emporte, donc c'est pas le Styx, mais enfin c'est quand même une mer bouillonnante qui vous emmène, dans la vie peut-être, mais par le mot liberté. Enfin bon, il y avait tout ça, c'est connoté tout ça évidemment.
Que le paquebot Liberté a vraiment existé, et c'est un paquebot qui a été un paquebot allemand qui s'appelait Europa, qui a été débaptisé après la guerre. C'était un bateau réquisitionné, en fait, si vous voulez, par les forces françaises aux Allemands. Et donc, c'est un bateau qui faisait la liaison Le Havre-Martinique, là où va le Franck Dragon, le héros du roman.
Mmh.
En fait, donc, c'est un vrai... Il y a beaucoup de choses historiques dans le bouquin qui sont vraies, en fait.
D'accord.
C'est un symbole, mais c'est aussi une vérité.
Mmh. Mais alors dites-moi, ayant lu votre livre, je m'interroge un peu sur vous. D'où venez-vous? Qui êtes-vous? Où allez-vous? Est-ce possible de répondre à ces trois questions?
Moi, je suis journaliste, en fait. Je suis journaliste, je travaille dans la presse depuis une trentaine d'années.
Ah oui, là, vous n'avez pas une écriture journalistique, vous avez une écriture
de
romancier, là, c'est très clair.
Pas du tout, ouais. Mmh. C'est un autre univers, je décroche complètement de mon travail en faisant ça, mais... Voilà, je suis vraiment dans l'écriture et la lecture depuis longtemps, mais voilà, je suis journaliste, je travaille pour un magazine qui s'appelle Animaux Bonheur, qui est un magazine militant de la cause animale.
D'accord.
Donc voilà, de protection animale, et qui me donne beaucoup de plaisir d'ailleurs, parce que il y a beaucoup de questions philosophiques sur notre rapport à la manière dont on traite d'autres êtres vivants.
Mmh, ouais.
Donc ça fait partie des magazines.
D'accord. Il y a une cohérence quand même, hein, par rapport à l'écriture même de votre livre et la façon dont vous faites parler ce jeune Franck Dragon. Alors c'est vrai que le mot dragon, c'est un nom qui a existé. Vous avez connu des gens qui s'appelaient Dragon?
Oui, en faisant des recherches sur la Shoah, je me suis rendu compte que certaines personnes, on leur avait donné le nom de dragon, certains juifs, on leur avait donné le nom de dragon.
Ah, d'accord.
De manière évidemment péjorative.
Oui, bien sûr.
Et j'ai découvert qu'il y avait un Shlomo Dragon qui avait été survivant de la Shoah.
D'accord.
Et Defender Commando.
D'accord. Donc au
démarrage... Qui a d'ailleurs témoigné après la guerre sur ce qu'il a vécu. Et donc ça a été un point de départ. Je me suis dit que je voulais appeler le héros. Je voulais que le héros soit presque le fils de ce monsieur Dragon, en fait.
Mm-hmm.
Et voilà,
en plus de ça
va
bien.
Un nom suffisamment péjoratif pour qu'il y ait quelque chose derrière, en fait, voilà, pour qu'on imagine des choses derrière.
Oui, c'est-à-dire que péjoratif, ça ne nous vient pas à l'esprit. Un dragon, on n'y croit pas trop au démarrage, quoi. Et puis, c'est vrai qu'en même temps, c'est bien ce dragon qui crache le feu et qui arrive à s'en sortir. Enfin bon, voilà, il y a toute une symbolique autour du dragon, mais dans l'imaginaire enfantin, je crois, non?
Ouais, après le mot dragon est amusant parce que vous retrouvez après des dragons qui est le nom de soldats pendant la guerre qui s'appelle les Dragons, les régiments de dragons.
Oui.
Mm-hmm. Il y a la rue du Dragon à Paris qui traverse à la fin du livre. Mm-hmm. C'est un mot qui devient pour lui un... qui le poursuit, en fait. Son nom de famille le poursuit. Mm-hmm. Il en est fier à la fin. Et c'est pour ça que j'ai appelé le livre « La vie magnifique de Franck Dragon ». Parce que le message du livre, c'est quelle que soit la vie qu'on a, qu'elle soit belle, cruelle, sauvage, ordinaire, banale, elle est belle. Il faut la prendre telle qu'elle est.
D'accord.
Et c'est ce qui fait vraiment la joie de vivre, c'est-à-dire de prendre sa vie comme elle est.
Et oui, en plus de ça, magnifique, il y a grand. C'est, la vie est grandiose, quoi, au fond. Hein. La vie magnifique, il y a cette magnum, enfin, voilà, c'est quelque chose de très grand. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié donc, votre livre, je vous dis, j'ai été agréablement surprise, en plus, je ne connaissais pas, donc j'ai découvert au démarrage. Alors, c'est vrai qu'au début, j'ai eu un peu de difficulté à rentrer dans le texte, et au bout d'un moment, comme je vous le disais tout à l'heure, je trouve ça assez fascinant. Hein. Donc, je recommande évidemment votre livre, et je vous remercie en même temps d'avoir répondu à mes questions. Donc, sachez qu'on va faire, il y aura quelques petites pauses dans les interviews pour permettre aux auditeurs d'entendre le texte, hein, parce qu'il me semble qu'en plus à voix haute, il doit être assez percutant. Et donc, je vous remercie mille fois, Stéphane Harfi. Et je rappelle le titre du livre, « La vie magnifique de Franck Dragon », qui a été édité chez Grasset. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Voilà, et je vous propose donc que nous lisions tout de suite, page 188, le moment où le jeune Franck va chez le docteur Destouches. Au 25 terre de la rue, une plaque accrochée au grillage indiquait « Docteur L.F. Destouches de la faculté de médecine de l'Enfer, de 14h à 16h, sauf vendredi ». Un chien énorme suivi d'une meute de chiens plus énormes encore vint grogner près de moi. Un homme maigre, voûté, apparut soudain, me fixant de son regard d'aigle, survolant quelques vallées abominables. « Fous-moi le camp, brigand, mendigo, fripouille » beugla-t-il. « C'est toi qui as salopé ma belle plaque ? Je t'en foutrais, moi, de la médecine de l'enfer. Et tu veux quoi cette fois-ci ? Me flinguer, c'est ça ? N'en parle, sinon les chiens vont te becter tout cru. » Comme je ne répondais pas, il changea soudain de ton en me dévisageant. « Oh, t'es en sale état, toi ? Bon, allez, ben, entre. » Entre donc, l'amigo, reste pas planté dans le glagla. Le docteur Destouches avait les ongles et les rides du front bourrés de crasse couleur de goudron. Avec ses chaussures trouées et son foulard déchiré autour du cou, il était aussi distingué que le plus inoffensif des vagabonds. Dans son bureau où s'empilaient lunettes tordues, carnets poussiéreux, couteaux rouillés et blocs de feuilles tenus par des pinces à linge, un perroquet sifflait atrocement. « Couraide comme un passe-lacé, dit le docteur en m'examinant, bidon dur comme du marbre en tranche. Et que nous dit le thermomètre ? Il nous dit « fièvre chevaline ». Je ferais bien un concours de fébrilité avec toi, l'amigo, mais ça me rappellerait trop la guerre et mes copains clamsés. Ça, j'en ai vu crever, des copains. Trompettes, dragons, cuirassiers, tous morts porteurs la gloriole de notre glorieuse patrie, la Vrunz. Je te parle pas de cette guerre, mais de la der des der, la mère boucherie sans laquelle la seconde n'aurait nullement été autorisée par les hautes huiles. » Et si tu te demandes de quoi t'es malade, l'amigo, j'en sais fichtre rien. C'est la maladie qu'il dira. Faut d'abord que les microbes se fassent connaître, sexe, âge, profession des parents. Et on les nettoiera un à un, ces salopios, à la mitrailleuse et à la grenade. Et c'est caché. Tu te les envoies toutes les 4 heures au fond du goulot. Comprendo ? Voici, à conserver dans tes poches, un stock de 5 plus 8 cachets plus 7 cachets qui nous font un total de 20 cachets offerts par la maison Destouches. C'était donc un extrait du livre de Stéphane Harfi, La vie magnifique de Franck Dragon. C'est à Meudon, la rencontre avec Louis-Ferdinand Destouches, que nous connaissons évidemment sous le nom de Louis-Ferdinand Céline.